grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 29 juillet 2014. Bonsoir et bienvenue. Nous recevons dans le grand dialogue d'aujourd'hui, nous l'espérons, un invité spécial, Maître Moutar Attal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est en cours de route. Nous avons également avec nous deux professeurs d'université, Ibrahim Camara, également en route, et Étienne Fakaba Sissoko au téléphone. Bonsoir, Monsieur Sissoko.
Bonsoir, Ami.
Nous aurons donc Ibrahim Camara, spécialisé en droit fiscal et enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques. Nous allons voir avec nos invités dans quel état se trouve l'enseignement supérieur au Mali. Les axes concernés aujourd'hui, nous ferons le bilan de l'enseignement supérieur au Mali, le fonctionnement et son diagnostic, les perspectives de l'enseignement supérieur au Mali. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Djouara est à la technique.
Studio Tamani.
Depuis l'avènement de la démocratie au Mali, l'enseignement supérieur a du mal à mettre sur le marché de l'emploi des ressources humaines de qualité. Trois régimes politiques tentent en vain, à travers des réformes, de mettre l'école malienne sur pied. L'université de Bamako est submergée par le pléthore d'étudiants orientés chaque année vers ses différents pôles de formation. Les infrastructures universitaires de Ségou, en 4e région, premier essai de la décentralisation de l'université malienne, et Kabbalah à Bamako, un défi d'agrandissement tarde à être réceptionné. Et pour couronner le tout, les étudiants et les professeurs brillent à travers les grèves de revendications intempestives. Alors, Monsieur Sissoko, vous qui êtes le seul avec moi, du moins pour l'instant, est-ce que vous pouvez nous dire actuellement, nous sommes à quel niveau dans ce bilan? Étienne Sissoko? Étienne?
Oui.
Vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Voilà.
Mal.
Voilà, si vous pouvez faire un peu, vous déplacer un tout petit peu. Nous avons beaucoup de bruit sonore au fond. Voilà, je vous demandais de nous faire un bref résumé de votre constat aujourd'hui de l'enseignement supérieur, de son progrès, de l'avènement de la démocratie à nos jours.
Alors, pour faire l'analyse de l'enseignement supérieur aujourd'hui, bon de signaler quand même un certain nombre de progrès ces quelques années depuis l'introduction du Mali dans le système LMD qui tend à équilibrer un peu le niveau de l'éducation que nous devons donner à nos étudiants et le marché de l'emploi parce que c'était cela le véritable problème. Et qu'à l'époque, nous avions énormément de filières et que ces filières avaient du mal à trouver des débouchés. Et donc aujourd'hui, avec l'introduction du Mali dans le système LMD, cela nous facilite énormément cette préparation, même s'il y a des difficultés encore qui demeurent pour la mise en place effective de ce système-là. Deuxième chose, c'est une amélioration un tout petit peu, pas à souhait, mais en tout cas une amélioration, une volonté en tout cas des pouvoirs politiques à améliorer les conditions dans lesquelles les enseignants du supérieur sont en train de travailler. Mais ce qui manque cruellement, c'est toujours les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous avons 100 étudiants pour un professeur, des amphis mal adaptés, des cadres qui ne donnent pas vraiment goût à l'enseignement, une technologie quasi inexistante dans nos universités. Et aujourd'hui, greffé à tout cela, un manque crucial de personnel au niveau du supérieur. Et la plupart des cas, quand nous avons aussi des enseignants, c'est des enseignants qui n'ont pas été très bien formés. Et parce que ceux qui viennent aujourd'hui viennent surtout de l'extérieur. Et quand ils viennent avec beaucoup d'a priori et l'adaptation est souvent très difficile. Et autre chose que nous pouvons signaler au niveau du constat, c'est aussi le manque de technologie, parce que quand vous regardez, vous pouvez trouver encore dans nos universités des gens qui sont au niveau de la maîtrise, qui préparent leur DEA, qui préparent leur master et qui n'ont jamais utilisé un ordinateur. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être revues pour justement permettre à l'étudiant malien de travailler dans les meilleures conditions, pour permettre aux professeurs de travailler dans les meilleures conditions et donner le meilleur d'eux-mêmes pour sortir notre école de ce marasme que nous connaissons.
Merci beaucoup, Étienne Fakaba Sitseko. Je rappelle que vous êtes professeur d'université. Vous intervenez par téléphone. Je vous l'ai dit, l'annonce du ministre, ce n'est pas un canular car nous ne sommes pas au mois d'avril. Justement, nous avons avec nous Ibrahim Camara, le ministre a juste un contre-temps. Ibrahim Camara, vous êtes également universitaire. Vous enseignez à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako. Étienne, j'ai demandé tout à l'heure à Étienne de nous faire un bref bilan de l'avènement de la démocratie, de la période, de cette période-là jusqu'à nos jours, de l'état dans lequel se trouve l'enseignement supérieur au Mali. Est-ce que vous pouvez vous prêter à ce même exercice?
Évidemment, mais je tiens tout d'abord à m'excuser du retard. C'était indépendant de ma volonté. C'était dû à des raisons techniques. Alors, pour ce qui est de la question, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, nous avons constaté que notre enseignement supérieur a connu des soubresauts et aussi des variantes réformes et qui n'ont pas été suivies techniquement d'effet pour mettre en exergue l'effet escompté. Mais la grande réforme que nous avons amorcée depuis l'indépendance, c'est évidemment en 1996 avec la mise en place de l'université nationale. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est juste prêté au jeu des textes. On a juste dit, écoutez, nous avons des grandes écoles sur place. On va juste les transformer en université. Et on va dire qu'il y a Mali aussi à son université. C'est bien beau sur le papier, mais quand vous rentrez dans l'université... J'ai écouté un peu l'intervention d'Étienne. Il a mis le doigt sur les difficultés au sein de cette université-là. Difficultés d'ordre humain, difficultés techniques, difficultés financières, et aussi tout étant lié, nous constatons que la réforme universitaire n'a pas été tout suivie par la réforme des écoles au niveau inférieur et nous constatons pas un nivellement mais vraiment un niveau très bas des étudiants et aussi la paresse intellectuelle des professeurs, je ne vais pas les épargner, qui ne fournissent aucun effort, ça je le dis et je le maintiens, qui ne fournissent aucun effort, j'ai entendu certains pour essayer de se maintenir dans les quotas intellectuels africains et aussi donner le maximum d'informations aux étudiants. Et c'est un peu aujourd'hui les constats, je dirais, un peu amers de notre université.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un professeur peut venir peut être amené à être suffisant jusqu'à ce niveau?
Le problème, dans un premier temps, parce que je vous ai dit qu'on a juste créé l'université sur les textes. On n'a rien fait techniquement pour amener des bons professeurs. Ça ne sert à rien de créer une université si vous n'aviez pas de docteurs pour enseigner, si vous n'aviez pas de grands professeurs pour enseigner et si vous n'aviez pas derrière aussi des ressources humaines capables de suivre les travaux dirigés. Et on a constaté, c'est fait en 97, c'était sous le président Alpha Conaré Konaré, que certains professeurs ont eu leur titre, ont été déclarés professeurs que sur titre. On ne peut pas être professeur sur titre. Le professorat est un mérite et pour être professeur, il y a des étapes qui sont établies par le CAMES que vous devez franchir. Et les professeurs, les docteurs ici au Mali, je ne parle pas des docteurs de la nouvelle génération, en tout cas jusqu'en 97-98, n'écrivent pas. Vous remarquez très bien que nous avons un défaut cruel d'écriture de la part non seulement des enseignants du supérieur et aussi des chargés TD. Et puisque la concurrence n'y est pas, donc forcément vous tombez dans une certaine paresse intellectuelle et vous ne vous livrez plus vous aussi à de la gymnastique pour essayer d'être toujours au niveau requis pour dispenser des cours à l'université.
Alors, Étienne Fakaba Sisseko, vous êtes enseignant du supérieur. Quels sont les critères aujourd'hui au Mali pour enseigner au supérieur?
Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, avec l'introduction du système LMD, on a tendance à aller avec ceux qui ont juste le doctorat, qui peuvent être habilités à enseigner. Mais quand vous regardez aujourd'hui l'ossature du personnel de l'enseignement supérieur, vous remarquerez qu'il y a des gens qui ont des diplômes de toutes sortes, des gens qui ont des masters professionnels, des gens qui ont des masters recherche, des gens qui ont l'ex-2EA, mais aujourd'hui qui ne suffisent pas pour donner à l'éducation malienne la qualité que nous recherchons tant. Donc aujourd'hui, ce qui est important de signaler, c'est que nous devons finir avec cette médiocrité permanente que nous sommes en train d'installer dans nos universités. Et là, je suis totalement d'accord avec Camara quand il parle de notre paresse intellectuelle, parce que ceux-là qui enseignent à l'université, tu trouveras qu'ils ont 10 ans, 15 ans d'années de service à leur actif et qui n'ont jamais produit un seul bouquin. Et cela est inadmissible, parce que le partage de connaissances qui est demandé à ce niveau-là n'est pas respecté. Autre chose, c'est au niveau du CAMES. C'est vrai que aujourd'hui, c'est la référence. C'est la référence aujourd'hui pour être enseignant habilité à enseigner au supérieur et un peu partout dans la sous-région. Mais aussi, il y a une mafia qui entoure l'organisation des concours d'agrégation au niveau du CAMES qu'il faut dénoncer. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il n'y ait pas d'infrastructure pour faciliter la recherche au niveau de nos pays et qu'en même temps, on impose une production d'au moins 2-3 articles pour pouvoir même prétendre à ce concours-là. Donc, c'est dommage que M. le ministre ne soit pas encore arrivé. Sinon, la proposition qu'on aurait dû lui faire aujourd'hui, c'est de faire tout, de mettre tout en œuvre justement pour permettre à nos professeurs d'avoir des unités de recherche. Parce que ce sont ces unités de recherche-là qui peuvent véritablement aider le pays à produire, à analyser le contexte dans lequel nous vivons, à produire des chiffres et à faire des prévisions qui pourrait permettre à nos autorités, dans tous les secteurs, de prendre des décisions pour le développement de notre pays.
Alors, vous venez de l'entendre, Ibrahima Camara, vous venez d'entendre Étienne sur ces unités de recherche qu'il faut aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une réelle pertinence de ces unités ?
Effectivement, c'est ce qui s'est fait de mieux en Europe, en Occident. Nous-mêmes, nous avons bénéficié des unités de recherche en Europe, en France, dans les universités françaises et américaines, pour nous former. Et ici, aujourd'hui, le drame, c'est qu'on n'essaye même pas de les imiter. Moi, je vais prendre un exemple frappant. À la FSJP, on a essayé, pendant ces vacances, de travailler un tout petit peu sur ce qui peut être l'université cette année. Bon, on a voulu mettre en place des équipes pédagogiques qui peuvent ressembler un tout petit peu aux unités de recherche. Mais ces équipes pédagogiques, le problème, c'est que même les chargé principal de cours n'est pas là. Il ne s'entretient pas régulièrement avec les chargés de TD. Et alors, il n'y a pas de suivi derrière. Donc, les unités de recherche, dans ce contexte-là, n'est pas adapté. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, effectivement, non seulement des unités de recherche, mais des mécanismes de recherche. Et les mécanismes, c'est vrai que l'unité peut participer aux mécanismes, mais il faut de l'humain. Il faut quelqu'un derrière pour suivre et surveiller, comme l'a si bien dit Étienne. Mais aujourd'hui, l'université est victime de sa propre politique. Surtout au niveau de l'animation des cours, de l'octroi des heures de cours, de beaucoup de petits soucis qui font que même aujourd'hui, la flash est, les examens sont bloqués à la flash. Pourquoi ? Parce qu'il y a des heures supplémentaires. Dommage, comme le ministre n'est pas là.
Le ministre arrive.
Il y a des heures supplémentaires qui sont bloquées, qui ne sont pas payées. Et certains professeurs ont pris en otage les examens. Ils ont dit non, nous ne corrigerons pas, nous ne donnons plus nos copies. Tant que les heures supplémentaires ne sont pas payées. Et il y en a qui ont jusqu'à 12, 15, 20 millions d'heures supplémentaires à l'égard de l'État. Or, ces gens, quand vous regardez l'emploi du temps de l'université, vous allez voir que ces professeurs interviennent au même moment dans les amphithéâtres différents. Et c'est déplorable.
Nous allons observer une courte pause et nous allons poursuivre avec le débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Isaber de Niafunke, 96.3 MHz.
Nous ne cesserons jamais de le dire, le Grand Dialogue ainsi que les programmes du Studio Tamani sont diffusés en direct sur notre site web www.studiotamani.org et sur une vingtaine de radios au Mali. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook Studio Tamani. Cette émission est une édition spéciale, enfin une édition spéciale à moitié car le ministre attendu, le ministre de l'Enseignement supérieur n'est pas encore là mais il est en cours de route. Nous avons également avec nous Ibrahima Camara, professeur spécialisé en droit fiscal à l'université de Bamako, docteur Étienne Fakaba Sissoko, également est en notre compagnie, il intervient par téléphone. Nous allons parler de la gestion aujourd'hui de l'enseignement supérieur au Mali. Alors les professeurs qui sont indexés aujourd'hui, la corruption gangrène la plupart des domaines d'activité au Mali. Le professeur, l'enseignement supérieur ne fait pas exception à cette règle. Comment est-ce que le Mali parviendra un jour à sévir dans ce domaine pour que la corruption dénoncée à la fois par les parents d'élèves, les parents d'étudiants et les étudiants puisse prendre fin, Ibrahima Camara?
Alors, c'est une question qui est très délicate à répondre, très difficile. Mais la réponse, la solution, elle est toute simple. Parce que ce sont ces mêmes parents d'élèves qui sont des corrupteurs actifs. Parce que c'est eux qui se déplacent pour vous rencontrer dans les cours des amphithéâtres à la fin des cours pour vous demander de mieux avoir l'œil sur leurs enfants. Puisque nous sommes dans l'amphithéâtre, moi j'ai particulièrement plus de 800 étudiants dans l'amphithéâtre souvent. Donc je ne peux pas me permettre de me consacrer à une seule ou deux personnes. Et ensuite, moi, c'est une matière technique que j'enseigne. Et lorsque vous faites les sujets, vous êtes obligé de tenir compte de beaucoup de paramètres pour la fabrication du sujet. Et dans ce domaine, nous avons constaté qu'il y avait des failles au niveau des procédures de fabrication du sujet, de la réprographie au bureau du doyen. Et aujourd'hui, il y a une limite qui a été posée. Et cette limite, c'est qu'aujourd'hui, c'est le professeur lui-même qui amène son sujet. Il va faire la réprographie, au niveau de la réprographie, il met le sujet dans l'enveloppe, il les ferme et il va les déposer de ses propres mains dans les bureaux du doyen. Alors là, c'est sécurisé, la procédure elle est toute simple mais elle est sécurisée. Mais la procédure là où elle intervient et qu'il fait mal, c'est après les notes. Je vous dis que moi, dès que je remets mes notes à l'administration, j'ai aucune possibilité de les vérifier. J'ai aucune possibilité de les vérifier. Et là, ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est les travaux dirigés. On prend n'importe qui, tout le monde est sélectionné pour donner les travaux dirigés. Et vu que les travaux dirigés sont mal rémunérés, et ensuite que la rémunération elle est faite à la fin, donc ceux qui sont souvent dans les besoins se permettent de prendre des sous aux étudiants pour leur octroyer des notes par-ci, par-là. Mais chose qu'on peut facilement contrecarrer par la mise à l'écart pure et simple de ces pratiques-là, en écartant les professeurs qui le font, simplement, et aussi d'être beaucoup plus clair sur les formes de rémunération, parce que vous avez vu, le Mali est le seul pays, un des pays où la paye des professeurs, entre guillemets, est le plus bas de l'Afrique de l'Ouest.
Et pourtant, les travailleurs de la fonction publique estiment que la fonction d'enseignant paye son homme. Alors, Étienne Fakaba Sissoko, ce problème de la corruption, est-ce que le Mali a les moyens aujourd'hui de mettre les garde-fous nécessaires pour stopper la corruption dans le milieu scolaire?
Bien sûr, nous avons les moyens et nous avons les mécanismes nécessaires pour pallier à tous ces problèmes-là. Mais ce qui manque cruellement, c'est une volonté politique, une volonté affichée des autorités pour justement éradiquer définitivement ce phénomène-là. Quand vous regardez dans les années 60 jusqu'à 68, le Mali faisait la fierté, les cadres du Mali faisaient la fierté au niveau de l'Afrique, de l'Ouest en tout cas francophone. Mais de plus en plus, nous voyons une détérioration continuelle et permanente du niveau de l'éducation. Et la corruption dont nous sommes justement en train de parler est à la base de tout cela. C'est vrai que dans un premier temps, il faut de la sensibilisation. Mais cette sensibilisation-là n'est pas en train d'être faite. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui manque ? C'est sur toute la chaîne qu'on doit revoir. Si quelqu'un sait par avance que aujourd'hui, si je ne suis pas comme il le faut, si je passe par la corruption pour justement avoir mon diplôme, que sur le marché de l'emploi, je ne pourrai pas compétir au même titre que les autres, il réfléchira à deux fois avant de corrompre et de se faire corrompre. Ça, c'est un premier aspect. Mais malheureusement, quelqu'un peut avoir un diplôme avec un niveau très bas, mais puisqu'il a quelqu'un de haut placé dans un secteur ou dans un autre secteur, il a facilement la possibilité de travailler. Ça, c'est un premier aspect. Et autre chose que nous devons revoir, en plus de la sensibilisation, c'est la répression. Parce que les auteurs de ces troubles-là, les auteurs de ces problèmes sont connus. Parce que dans la plupart des cas, quand nous entendons les gens parler, c'est comme si on ne sait pas véritablement d'où est-ce que les fraudes viennent. C'est comme si nous ne savons pas qui sont les auteurs de ces fraudes-là. Or, aujourd'hui, ce n'est de secret pour personne que ceux-là qui sont coupables de cela, c'est en premier lieu nous, les enseignants. Parce que quel que soit le parent qui veut donner de l'argent pour faire passer son enfant, c'est le professeur qui l'accepte. Donc, il y a un véritable problème au niveau de nous d'abord en tant que professeurs. Et cela commence depuis notre recrutement. Parce qu'aujourd'hui, vient dans l'enseignement, qui le veut, vient dans l'enseignement qui est dans le besoin. On recrute n'importe comment, on recrute n'importe qui. Et il ne faut pas justement qu'on trompe les gens en brandissant chaque fois le fait que nous ne sommes pas suffisamment payés, ce qui est totalement faux. Parce que nous sommes payés 5 fois, 6 fois, voire même plus que ceux-là, nos collègues qui travaillent au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la fonction publique dans d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes les mieux lotis en termes de salaire. Donc on ne peut pas comparer. C'est vrai, quand nous comparons à nos collègues de la sous-région, il y a un écart. Mais il faut tenir compte aussi du coût de la vie. Cela est vrai. Mais je dis simplement que nous avons un défi aujourd'hui à relever. Et ce défi-là ne peut être atteint que si nous repensons véritablement le rôle de l'enseignant, que si nous valorisons véritablement le métier de l'enseignant. Et c'est à cela qu'il faut revenir davantage, voir dans quelles conditions nos enseignants sont formés, voir dans quelles conditions nos enseignants sont recrutés, voir dans quelles conditions ces enseignants-là sont appelés à travailler. Si nous ne revoyons pas ces conditions-là, je vois très mal comment est-ce que nous pouvons lutter véritablement contre la corruption. D'autant plus que tout est fait aujourd'hui pour encourager et entretenir cette corruption-là.
Merci.
Donc, en plus de la sensibilisation, il faut tout cela.
Merci beaucoup, Étienne Fakaba Sissoko. Je rappelle que vous êtes universitaire. Ibrahim Camara, vous avez suivi Étienne Fakaba Sissoko tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est, il y a eu un remaniement. Le ministre est arrivé il y a quelques mois à la tête, le ministre Moutagatal est arrivé il y a quelques mois à la tête de ce département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'il est là?
Bah écoutez, moi je ne peux pas dire grand-chose. J'aurais bien aimé qu'il soit là pour que lui-même il nous dise les actions qu'il a posées, mais malheureusement... Mais ce que moi je peux dire, bien avant l'arrivée du nouveau ministre, il y a eu quand même des réformes qui ont été entreprises. Notamment, je ne peux que parler de là où je suis. Au niveau de la FSJP, il y a eu des changements. Le doyen est arrivé. Il y a un nouveau doyen qui a été mis en place, Dodo Sako, qui mène une politique vraiment de fer pour essayer de redorer les blasons de l'école. Il est accompagné par ces deux R et ensuite par le service de la scolarité. Il y a des réformes qui ont été entreprises. Et vous avez remarqué que cette année, nous avons constaté que le doyen a été très clair, que personne ne composera sans sa carte d'identité universitaire. Ça peut vous paraître comme rien, vous me dites, mais ce n'est pas une nouvelle. Et je vous dis qu'à la FSJP, il fallait être en troisième année pour avoir sa carte de la première année. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Une carte de la première année, or vous êtes en troisième année. Ça veut dire que cette année, il y a une réorganisation qui est faite au niveau de l'enseignement supérieur, en tout cas au niveau de la FSJP, et l'équipe qui est en place essaie de tout faire, en tout cas du rectorat jusqu'à au niveau du doyen, en passant par le corps professoral, entre guillemets. Il y a un effort colossal qui est fait, même si encore il manque beaucoup de choses. Et ces choses-là, moi je pense, résultent beaucoup plus de l'inorganisation et aussi du manque des moyens. Étienne l'a souligné un tout petit peu dans cette intervention avant que je ne parle la parole, et que nous ne sommes pas équipés. Et figurez-vous que au sein de l'enceinte de la FSJP, il n'est pas possible d'avoir Internet, juste Internet, pas pour faire autre chose, mais juste pour faire un peu de recherche et autre chose. Et par là aussi, on peut citer quoi d'autre ? On peut citer le fait que les enseignants ne sont pas aussi à l'aise parce qu'il y a l'insécurité qui est grandissante. Et il faut le dire, qu'il y a un syndicat des étudiants qui est très puissant parce que les autorités politiques ont laissé faire, se sont débinés et ont laissé l'AIM jouer un rôle primordial au point que le bureau de l'AIM des établissements universitaires demande à siéger à la délibération des résultats.
Alors, Étienne Fakaba Sissoko, est-ce que vous comprenez ce point de vue et est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Des étudiants, de l'association des étudiants, des élèves et étudiants du Mali qui demandent à être à siéger au sein de cette commission.
Oui, ça me fait rigoler cela parce que tout cela démontre encore une fois dans quelle légèreté les choses sont gérées au niveau de nos facultés et universités. Mais ce que je voudrais dire pour répondre un peu à la question que vous venez de poser à Camara, c'est que rien n'a changé justement, ni dans les conditions de travail des enseignants, ni dans les conditions d'accueil des étudiants, ni dans la méthode de gouvernance justement au niveau de nos universités. Bien au contraire, j'ai été de ceux-là qui ont dit que Maître Tall n'avait rien à faire justement au niveau de l'enseignement supérieur. Avec tout le respect qu'on doit à sa personne, à tout ce qu'il a fait pour le Mali, aujourd'hui, l'enseignement supérieur ne manque pas de cadre valable pour faire face justement aux préoccupations de l'école malienne. Et c'est dommage que les choix politiques que nos autorités sont amenées à faire ne font qu'enfoncer davantage nos écoles, ne font qu'enfoncer davantage l'avenir de nos étudiants. Donc moi je dis encore une fois, on aurait été heureux aujourd'hui si le ministre Tall, une fois à la tête de notre département, avait pris des mesures drastiques pour justement voir dans quelles conditions nos professeurs sont recrutés. Vous vous souvenez certainement qu'il y a un mois, nous avons fait un concours d'entrée concours des enseignants du supérieur. Mmh. Non, un concours des enseignants qui devront enseigner au supérieur. Le besoin exprimé est aujourd'hui de 800. 800 et poussière. Et ce que le concours qui a été lancé ne recrute en réalité que 142 professeurs. Donc, encore une fois, le manque de professeurs demeure. Et quand vous regardez les amphis, Camara vous parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'il enseigne dans ces amphis-là, je vous dis que les étudiants sont obligés de rester dehors pour écouter le cours parce que les conditions d'accueil ne sont pas, encore une fois, respectées.
Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup Étienne. Malheureusement, le timing me fait signe que nous devons observer une courte pause. Nous allons l'observer. Le ministre Tall est déjà dans ce studio. Nous le remercions de s'être déplacé pour ce débat. Et nous reviendrons vers vous juste après la pause.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Un clin d'œil spécial aux radios Fasoukanou de Banamba, Diamana et Alfarouk de Tombouctou qui, au même titre que les autres stations partenaires du studio Tamani, nous permettent, grâce aux correspondants locaux, d'alimenter notre page Facebook Studio Tamani avec des nouvelles fraîches des 8 régions du Mali, de Kaya Kidal. Nous sommes donc à la troisième partie de ce grand dialogue, troisième partie qui réfléchit sur les perspectives de l'enseignement supérieur au Mali. Et sachez que nous avons la chance d'avoir avec nous Maître Moutagatal, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons également Ibrahima Camara, professeur de droit à la faculté politique de Bamako, Etienne Fakaba Sissoko, également universitaire qui intervient par téléphone. Donc, nous allons directement passer la parole à Monsieur le ministre qui est avec nous dans ce studio. Monsieur le ministre, vous vous êtes présenté à divers scrutins pour ceux qui ne vous connaissent pas. Présidentiel au Mali, sans succès. Aujourd'hui, vous héritez d'une partie de l'école malienne, l'enseignement supérieur. Comment est-elle avant votre arrivée? Était-elle avant votre arrivée à sa tête? À quel stade est-elle aujourd'hui après quelques mois de gestion?
Merci. Permettez-moi de présenter mes excuses à tous nos auditeurs. Je suis en retard, mais pour des raisons absolument indépendantes de ma volonté. Dans la présentation, vous avez dit que je me suis présenté à des élections sans succès, disons sans gagner, il y a eu des succès. Et maintenant, votre question, c'est...
Comment est-ce que vous estimez que vous avez trouvé l'enseignement supérieur à votre arrivée et comment est-elle aujourd'hui après quelques mois de gestion?
Écoutez, l'enseignement supérieur au Mali est un grand malade. Il ne s'agit pas de rechercher la responsabilité de telle ou telle personne, de telle ou telle administration. Il s'agit d'un constat que nous avons fait en commun. Au-delà de l'enseignement supérieur, l'école au Mali est malade depuis 2 décennies au moins. La mission consiste à remettre sur pied ce grand malade, de faire en sorte que notre enseignement supérieur, qui est aujourd'hui à la fois un champ en ruine, un champ de ruines, un champ de mines, puisse être demain une école d'excellence et de modèle. Je ne pourrais pas y arriver seul. Il faudrait que pour le faire, il y ait l'apport et l'accord de tous les partenaires de l'école. Nous devrions aller d'abord nous ressourcer auprès de tous ceux qui ont bâti cette école, qui ont eu à y enseigner ou à la diriger. Il faudrait aujourd'hui qu'avec le personnel enseignant, nous ayons une commune volonté de faire avancer les choses. Nous devrions avoir un véritable partenariat avec les syndicats, enseignants et étudiants, et avec aussi les associations des parents d'élèves et toutes ces personnes de bonne volonté qui s'entremettent aujourd'hui pour apaiser l'espace scolaire. Si nous réussissons à créer cette dynamique, je pense que nous pourrons changer la face de l'école malienne qui, quoi qu'on dise, connaît aussi des points d'excellence.
Alors, quelles sont les actions immédiates que vous entendez mettre en œuvre au sein de ce département?
Vous savez, une concertation nationale sur le devenir, l'avenir de l'enseignement supérieur vient d'avoir lieu. Il y a eu un constat sans complaisance, un diagnostic clair et précis, mais aussi et surtout des pistes pour apporter des solutions. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est coller à ces recommandations et de les traduire en réalité. Nous avons la chance d'être accompagnés dans cette démarche par aussi bien le président de la République que le gouvernement, ce qui veut dire qu'il y a une volonté politique réelle et forte d'accompagner le mouvement. Or, vous savez, sans accompagnement politique, sans volonté politique clairement affirmée, il est impossible de réussir et d'avancer dans ce domaine.
Alors, je me fais écho de tout ce qui a été dit tout à l'heure par les deux précédents invités que vous venez d'avoir dans ce studio. Alors, on notait tout à l'heure le manque d'unité de recherche au niveau de l'enseignement supérieur, enfin de nos structures universitaires aujourd'hui, la lenteur dans l'application des réformes et aussi dans le recrutement des enseignants. Le Mali manque de plus de 800 professeurs. Aujourd'hui, 100 et quelques seulement ont été recrutés. Et qu'est-ce que vous répondez quand on fait écho de toutes ces difficultés?
Tous ces points ont été mis à l'index par la commission qui avait en charge de réfléchir sur l'enseignement supérieur. Je ne conteste aucun de ces points. Ça rend la tâche plus difficile, mais aussi plus aisée quand on accepte les tares, quand on les reconnaît. Et en ce moment, on se donne les moyens d'y arriver. Vous l'avez dit, nous manquons cruellement d'enseignants. Nous sommes dans la dynamique d'en recruter un peu plus d'une centaine cette année. Nous ferons beaucoup mieux, Inch'Allah, l'année prochaine. Mais nous n'allons pas régler toutes ces questions avec simplement des moyens budgétaires et financiers que nous n'avons pas toujours. J'ai demandé à toutes les administrations de me faire parvenir les noms de tous les enseignants hiérarchisés qui travaillent chez eux. Nous allons les mettre à contribution. Mais nous allons aussi lancer un appel patriotique à tous ces détenteurs de doctorats et plus, de voir ce qu'ils peuvent donner pour l'enseignement supérieur. Quelle part peuvent-ils amener? Nous allons essayer également, malgré ces difficultés, de rehausser le niveau de recrutement. Ce que nous avons commencé cette année. Il n'est plus question que des titulaires de la maîtrise viennent enseigner à l'université. Ceux qui ont le master ne pourraient commencer que comme assistants et après un concours qui atteste de leur capacité à donner des enseignements. Les réformes, nous allons les appliquer. Nous sommes en train de travailler dur, mais alors très dur, pour que cette rentrée, nous puissions appliquer le système LMD. Mais pour y arriver, il y a beaucoup de préalables. La première, c'est qu'il faut que nous sortions des années tronquées, des années à accordéon. On ne sait pas quand commence une année académique, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Cette année, si Dieu le veut, nous allons tous rentrer ensemble. Nous aurons les mêmes dates pour commencer les inscriptions, les terminer, ce qui va nous permettre de payer les trousseaux à temps. Nous irons tous, nous prendrons les vacances ensemble et nous ferons les examens ensemble. Donc, nous avons à cœur de mettre en pratique une telle réforme.
Alors, Monsieur le ministre, vous n'êtes pas n'importe quel ministre, car vous êtes un homme politique, aujourd'hui de premier rang. Vous êtes très attendu sur cette question de l'école. Les grèves d'enseignants et d'étudiants font leur célébrité aujourd'hui. Quelle est votre solution par rapport à ce casse-tête?
Le partenariat. Encore le partenariat et toujours le partenariat. J'ai dit au syndicat, auxquels j'ai rendu visite dans la première semaine de ma prise de fonction, que je ne suis pas leur adversaire, que nous allons perdre beaucoup de temps et d'énergie en nous chamaillant, mais que nous gagnerons à faire en sorte de nous mettre d'accord sur ce qui est possible, de différer ce qui n'est pas possible immédiatement et de renoncer à ce dont nous n'avons pas les moyens. J'ai dit la même chose aux étudiants. Je leur ai dit, écoutez, moi je vous considère comme mes enfants. Les étudiants sont les enfants de la nation. Et dans une famille, quelqu'un peut donner, nous sortons de Ramadan, deux boubous neufs à son fils pour le Ramadan. Un autre pourrait dire à son enfant, je n'ai pas les moyens de le faire cette année, va repasser, va laver, repasser celui que je t'ai donné l'année dernière parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Ils sont nos enfants, mais ce ne sont pas des enfants. Au bout de 3 mois, je constate aujourd'hui qu'ils sont capables de comprendre et ils veulent nous accompagner dans ce mouvement. Quant aux enseignants, figurez-vous qu'il y avait dans une université un problème de grève qui aurait compromis l'année. Nous nous sommes mis à table avec les syndicalistes. Nous avons discuté pour sauver l'année. Non seulement ils ont levé le mot d'ordre de grève, mais ils ont dit, par patriotisme, nous donnons
un mois de nos vacances au Mali. Nous allons enseigner sans demander d'heures supplémentaires. Voilà la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec les différents syndicats et à ces prix, je pense que nous pourrions sortir du cycle infernal des grèves, instaurer un partenariat dynamique au lieu des affrontements stériles que nous avons observés jusque-là.
Alors, nous allons demander à Étienne Fakaba Sissoko de synthétiser ses idées et de nous rendre ça plus fluide et de demander à Monsieur le ministre, nous sommes dans la troisième partie de ce débat qui parle des perspectives. Étienne, est-ce que vous pouvez nous résumer vos perspectives aujourd'hui pour l'enseignement supérieur à Monsieur le ministre, mais formuler cela sous forme d'une question, s'il vous plaît.
Alors, si vous permettez, d'abord, je voudrais dire à Monsieur le ministre que nous, en tant qu'enseignants aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout contents de la gestion qu'il est en train de faire de ce département. Parce que il se situe justement dans une dynamique de continuité. Or, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est le changement, c'est la rupture. Et les discours qu'il est en train de tenir aujourd'hui, ce sont les mêmes discours qui ont été tenus par ses prédécesseurs. Et ça n'a pas marché, ça a montré leur limite. Les concertations nationales sur l'éducation que nous avons enclenchées dernièrement ont été le résultat, ont donné les mêmes résultats que ceux que nous avons connus il y a quelques années. Moi, je peux déjà vous dire que j'ai fait ma thèse sur la question de l'éducation et le forum sur l'éducation n'a donné rien de différent à ce que j'ai donné justement comme conclusion dans ma thèse.
Donc Étienne,
les solutions aujourd'hui sont connues. Ce que je voudrais demander à Monsieur le ministre, c'est de ne pas nous dire qu'aujourd'hui c'est une question de budget. Parce que l'éducation représente aujourd'hui 30 à 35% du budget national.
Étienne.
Et cela, aujourd'hui, il y a une question de gestion que nous devons revoir à ce niveau.
Merci beaucoup, Étienne. Je rappelle que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et nous allons permettre à Monsieur le ministre de réagir par rapport à ces propositions.
Oui, je conviens que Étienne soit mécontent, mais je ne pense pas qu'il reflète le point de vue général des enseignants en disant que les enseignants sont mécontents de la gestion. Il ne s'agit pas de faire de l'incantation et de dire « je vais tout casser pour reconstruire ». Ce que nous allons bâtir, on le fera sur l'existant. On ne peut pas faire table rase de l'existant. Moi, je ne suis pas dans l'incantation, mais dans la gestion. Et tout à l'heure, j'ai dit « il ne s'agit pas que des questions budgétaires ». Il s'agit de prendre des initiatives, de voir de façon intelligente ce qu'on peut faire avec le disponible. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps, mais j'aurais voulu demander à Étienne qu'est-ce qui continue, qui n'est pas bien, et avec quoi il faut rompre, qui n'est pas bien. Donc, si on avait le temps de parler de ces questions, on serait vraiment très concret. Et je doute, franchement, que le panel qui a conduit les concertations sur l'éducation nationale puisse être considéré comme ne pas étant à la hauteur et qu'un titulaire d'une thèse a fait mieux qu'une telle commission dans laquelle il y a des hommes et des femmes qui encadrent ceux qui font les thèses.
Monsieur le ministre, un mot sur Kabbalah.
Kabbalah, nous sommes en train de finaliser le chantier de Kabbalah avec des difficultés quelquefois, mais nous essayons d'avancer vraiment sur le chantier qui est à près de 80-90% de réalisation. J'espère que nous pourrons réceptionner Kabbalah pour l'année 2015.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kabbalah,
Kabbalah, c'est un pôle universitaire avec des résidences universitaires aujourd'hui, mais aussi demain, des amphithéâtres, des salles de travaux dirigées, des travaux pratiques qui sont à un niveau, un standard très élevé.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à nos deux invités. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Sachez tout simplement qu'elle recevait en invité spécial Maître Moutagata, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de participer à ce débat. Merci également à nos deux invités, Ibrahima Camara, professeur d'université, et Étienne Fakaba Sissoko, également universitaire. Ce débat portait sur l'enseignement supérieur, le bilan et les perspectives et les axes concernant le bilan, le fonctionnement, les diagnostics et les perspectives de l'enseignement supérieur au Mali. Comme je vous l'ai dit, nos invités, Maître Moutagata de l'enseignement supérieur, ministre de l'enseignement supérieur, Ibrahima Camara, professeur d'université, et Étienne Fakaba Sissoko. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara était à la technique, Ousmane Diadji Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.